L'abbé Richard! Comment allez-vous?
Écoute, Greg, ça va très, très bien. Ça ne pourrait mieux aller, honnêtement. On est à Boston, on est la veille de Noël. Moi, mes cadeaux, non seulement sont achetés, ils ont été donnés déjà. Alors, j'ai pas cette pression-là.
Aïe!
Ah, ils sont achetés, ils ont été donnés. Ça, est-ce que c'est parce que tu restes sur la route pour tout le temps des fêtes? Là, tu reviens à la maison pour Noël?
Oui, je reviens à la maison, mais écoute, moi, avec ma future mariée, on a des agendas très occupés. Alors, le seul moment qu'on a pu ramasser tout le monde dans un même endroit en même temps, c'était avant mon départ pour le Pittsburgh. Alors, on a fait une belle soirée et voilà, on a déjà tout fait ça. Alors, tout est fait. Alors, c'est
Wow.
fait. Ah oui.
Manquera juste à manger du pâté à viande.
Ah, ça, c'est sûr.
Et
Ça,
ça,
c'est sûr.
ce qui est toujours pour moi un des moments favoris de l'année.
Ben oui, c'est
Manger du
tellement bon.
pâté à viande sans culpabilité, là, ça, c'est formidable.
Exactement.
Rich, écoute, d'ailleurs, tu as du futur marié. Félicitations, mon
Ben
ami.
oui.
Ça, c'est des excellentes bonnes nouvelles, ça, aujourd'hui. On n'arrête pas d'être gâtés par la vie.
Ah, écoute, ça, c'est ce que je me dis à chaque jour avec madame.
Wow!
Incroyable, mon Rich. Cela dit, Richard, là,
Oui.
faut embarquer dans les débats. Là. Matheson a parlé dimanche que le match de mardi, donc ce soir, allait peut-être donner le ton au reste de la saison. Un, quelle déclaration énigmatique, là. Peux-tu nous décrypter tout ça?
Ben écoute, c'est parce qu'on était dans le vestiaire après la rencontre de dimanche. Ça, c'était à Pittsburgh. Puis je jasais avec Matheson, beaucoup de son ami Sidney Crosby, évidemment, qui venait de réussir l'exploit que l'on sait. Et à un moment donné, ben, c'est ça, la conversation un petit peu a bifurqué sur la suite des choses. Le dernier match, évidemment, avant la pause de Noël. Et Matheson parlait d'un petit peu le ton que ça peut donner parce que c'est aussi le match avant la fameuse série de rencontres en Floride. Puis il me disait qu'à quel point, à chaque année, ce sont des moments importants parce que souvent, dans ce moment-là du calendrier, il y a des équipes qui se mettent soit à piquer du nez ou soit à partir vers le haut. Puis là, ben après ça part. Puis Dieu seul sait ce que ça peut donner. Alors, c'est un petit peu pour ça. Puis ce qui me faisait remarquer aussi, c'est que le classement maintenant risque d'être super serré jusqu'à la fin. Tu n'as pas tant de matchs que ça contre tes rivaux directs. Ça en est un ce soir. Alors, c'est sûr que si le Canadien, dépendant du résultat, mais évidemment, si le Canadien a un bon résultat ce soir, paraît bien. Et qui sait, sort avec la victoire, ben c'est le genre de choses qui peut donner un air d'aller. Alors, c'est un petit peu ça que je voulais dire.
Oui, effectivement, parce que quand tu regardes le classement, là, les Bruins sont juste à l'extérieur des séries éliminatoires. Même nombre de points que les Devils du New Jersey avec un match de plus de jouer. Donc, les Devils ont un match en main, c'est pourquoi ils sont dans le portrait. Et dans la division, vois-tu, ils ont un match de jouer de plus que le Canadien avec 2 points derrière. Donc, ça va être important, mais c'est vrai, puis je sais qu'on en a parlé hier, puis qu'on en a parlé la semaine passée, puis qu'on va continuer à en parler, là. Mais les Sabres de Buffalo sont 8e dans la course aux équipes repêchées. Pas dans l'association, là. Dans la course aux équipes repêchées. Ils sont 8e avec un match en main sur les Devils et 3 points derrière. C'est. Richard, par défaut, là, tu suis ça depuis plus longtemps que nous autres, là. J'essaie pas de te vieillir, c'est dit.
Mais... cela dit.
J'ai jamais
tu viens de le
vu.
Faire, tu viens de le faire.
Avec amour, tu le sais. J'ai jamais vu ça, moi.
Ben écoute, là, il faudrait que je fouille dans mes souvenirs un petit peu, mais c'est sûr que ben, tu sais, l'an passé, c'est un peu ça aussi. Hein. Souviens-toi, là, je sais pas si à cette date-ci, c'était aussi serré que ça, mais l'an passé, on était encore dans les derniers matchs du calendrier, puis on savait pas trop ce qui allait se passer. Le Canadien, d'ailleurs, s'est faufilé. Il restait quoi, une semaine à peu près aux séries quand on a commencé à comprendre que ça allait être fait. Alors, il faut falloir, je pense, s'habituer. Puis, ce qui fait une grosse différence, les gars, puis je regardais ça l'autre fois, on parle beaucoup à Montréal, les ennuis devant le filet. Hein, puis on va en reparler. On parle beaucoup des gardiens qui n'ont peut-être pas été à la hauteur. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes où les gardiens ont été à la hauteur. Il y a beaucoup d'équipes cette année qui ont eu des problèmes devant le filet. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que personne ne se démarque. sais, si t'as un gardien de but numéro un là, qui est complètement en feu puis qui vole des matchs, éventuellement, ton équipe se pousse. Ton équipe se démarque vers le haut, puis là, tu crées une séparation entre toi et ceux qui te pourchassent. Mais regardez dans l'Est en particulier, on était à Pittsburgh dimanche, on s'entend dessus que du côté des Pingouins... Là,
ah, c'est difficile, là.
Ben là, si vous voulez parler des problèmes devant le filet du Canadien, on pourrait faire 4 heures de show sur les problèmes des Pingouins devant le filet. Après ça, ben, si on regarde un petit peu les rivaux directs, Toronto, je lisais cette semaine des articles de mes collègues à Toronto, c'est compliqué, eux autres avec. Tu sais, il y a pas beaucoup d'équipes, en particulier dans l'Est, où t'as clairement un gardien vedette qui vole le show puis qui fait en sorte que ta formation est ouais. un avantage supérieur au reste. Alors ça aussi, ça fait une grande différence parce que ça fait en sorte que, tu sais, ça égalise un petit peu là, le portrait. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas personne qui se pousse. Le Lightning, là, Vasilevski, à un moment donné, ça ne marchait pas pantoute. On se demandait, coudonc, c'est-tu fini? C'est-tu la fin?
C'est plus lui, il a de la misère avec sa santé physique. Là. On exact. L'a vu, là, qu'il y a quelques ouais. blessures dans les dernières années.
Mais c'est un bon point que Richard amène, puis le fait que si une équipe se retrouve à avoir un gardien numéro un qui fait vraiment le travail, qui est super bon, on va le surutiliser. Et là, encore une fois, ça peut être néfaste, une nouvelle blessure. Là, Jeremy Swayman, cette année, il est souvent utilisé du côté des Bruins. Yanis Korpisalo ne fait pas du tout le travail. Donc, c'est ça qui est difficile aussi à ce niveau-là, là, c'est la gestion.
Ullmark s'est replacé.
Oui,
avec les Sénateurs d'Ottawa. Mais d'ailleurs, ça a été rapporté par Pierre Lebrun, Richard. Marc-André Fleury et son sympathique agent Alan Walsh auraient reçu des appels pour buddy, tu es en forme? T'attends-tu de revenir au jeu? Je me demande quelles équipes l'ont appelé. Pour moi, là, c'est sûr que les Pingouins ont appelé.
Les Leafs.
Ouais.
Les Leafs. Les Oilers.
Ouais.
Et il y en a probablement d'autres. Là.
Ouais, les Blues probablement aussi.
Ouais. Ben écoute, il y avait eu déjà des rumeurs, là, je crois, il y a 2 ans, avec Fleury et Toronto. Donc, si l'intérêt est encore là, ça serait pas nouveau, parce que déjà, je pense, les livres s'étaient informés à ce moment-là. Écoute, c'est intéressant, puis c'est drôle, tu me parles de ça, j'écoutais Philip Rivers hier soir, je me disais, voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là, 44 ans, Marc-André Fleury pourrait peut-être être inspiré par Rivers, ouais. Tu sais, mais c'est ça cette année, il y a des problèmes partout devant le filet, pas seulement à Montréal, puis c'est là qu'un gars comme Fleury, effectivement, tu sais, ça va être fou, là. Si Fleury décide que lui, j'ai pas de nouvelles à cet effet-là, mais si Fleury est dans le gym, puis il recommence à s'entraîner, à peu près, là, début, au retour de la pause olympique, là, il va y avoir des clubs dans le trouble, là, qui serait probablement capable de surpayer pour un gars de son âge.
C'est sûr. Tu sais, une coupe de match, là, c'est une coupe de mois. Tu sais, on sait que, bon, madame a dit non, là, c'est assez, t'arrêtes ça. Probablement avec raison, là, c'est avec plusieurs déménagements dans les dernières années et tout ça. Mais écoute, moi, Théo m'a raconté cet automne sur mon podcast Les Visiteurs que.
Ah, c'est là que je m'en allais, ouais.
Il s'était fait appeler justement par les Oilers d'Edmonton. Hey, t'es-tu en forme, là? Au moment où c'était un certain Davidson qui menait l'équipe, là. Hey, t'es-tu en forme? Serais-tu capable de revenir au jeu? Il dit dans ma tête, je me disais, ouais, je m'entraîne pas pire, je suis à peu près 10 livres overweight. Ouais, c'est correct, je suis en forme, je peux revenir demain matin, il n'y a pas de trouble. Au pire, je m'entraînerai un petit peu plus fort pour revenir, mais ce sont des choses qui se font, tu sais, pour des gardiens comme ça qui ont connu du succès.
Ouais.
C'est pas, on tient pas ça de la science-fiction. Bref, hey, Richard.
Je pensais que tu allais me dire que les Oilers ont appelé Théo la semaine passée.
Ben, rendu là pour vrai, Richard, là, on sait plus avec les Oilers, sérieux.
Écoute, moi, je paierais pour voir ça.
Mais Connor Ingram a gagné son premier match avec les Oilers. Hein.
Ouais, ça, c'est le genre d'histoire dans la Ligue nationale. T'as un gardien de même, il était dans la Ligue américaine, changé d'équipe, puis à un moment donné, il revient, puis là, ça marche. Tu sais, c'est, ouais. Je suis aucunement surpris de ça. Avant qu'on passe à la pause, écoute, Dano disputera son premier match avec le Canadien en 4 ans.
Oui.
Quel sera son impact pour toi, Richard?
Ben ça, c'est intéressant.
Ben, si je sais que c'est intéressant, c'est pour ça que je te la pose, tu comprends?
C'est très intéressant. Honnêtement, c'est ça, c'est un cliché hein, de dire « OK, on regarde pas les stats, on regarde pas les points, les passes. » C'était quoi, là? Cinq passes seulement, lui, depuis le début de l'année du côté des Kings. Évidemment, je pense que la situation... Ouais,
exact. Cinq passes, exact.
Ouais, la situation là-bas était pas très bonne. Dano, de toute évidence, ça ne fonctionnait plus avec l'entraîneur là-bas. Donc, changement de décor, je pense que ça, en partant, ça va lui être très, très profitable. Après, ce qu'il va faire, le gars qui est content présentement, là, les gars, là, qui doit être en train de célébrer fortement dans sa chambre d'hôtel avant de se rendre à l'aréna, c'est Nick Suzuki.
Oui.
Nick Suzuki, présentement, a l'air d'un gars épuisé. Et c'est normal, parce que évidemment il rate pas de match. Et le Canadien l'utilise à toutes les facettes. Vraiment, là, c'est un gars qui est souvent employé à toutes les facettes. Maintenant, tu as Dano qui arrive. Ça veut probablement dire que tu peux dire à Nick Suzuki, OK, à 4 contre 5, laisse faire. Tu te reposeras sur le banc. Des mises en jeu en territoire défensif importante, on va les confier à Philippe Dano. Alors, je pense que le gars qui va profiter de ça, c'est Nick Suzuki, qui récemment, tu sais, d'ailleurs, ne semble plus lui-même. Je pense, puis ça, c'est normal. Tu sais, encore une fois, quand tu joues autant que lui, tu sais, c'est le fun là, de parler d'un gars qui est un homme d'affaires puis qui rate pas de match, mais éventuellement, ça te rattrape. T'sais, puis je pense qu'on voit ça présentement du côté de Suzuki. On voit une certaine fatigue. Et je pense que la venue de Philippe Dano va lui retirer certaines responsabilités. Et ça va faire. C'est, tout le monde est gagnant. Ça fait en sorte que Suzuki va être meilleur. Et ça fait en sorte que là, ben, le Canadien obtient en Dano un gars qui va te donner d'importantes missions défensives, qui va relever d'importants défis en défense. Alors pour moi, je laisse faire les points. Je pense que Dano est un meilleur joueur que ça offensivement. Je pense que c'est. Il est meilleur que 5 passes en quoi le 30
matchs. Ouais.
Mais je pense que.
Il est plus 3, Richard. Il a juste 5 points, il est plus 3. Ça, c'est. En ne jouant presque pas non plus, on a vu son temps de glace baisser.
12-13 minutes par match.
Du 13 minutes par match, il était rendu là-dessus, là, ce qui est vraiment pas beaucoup pour un gars de 5 millions et demi et un gars de sa trempe également. J'ai tendance à me dire que Kent Hughes a raison quand il nous a dit, moi je me fie pas, on parle d'un gars qui a 8 points en 6 matchs en série, il revient la saison d'après, il a 5 points en 30 matchs. T'sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui fitait pas. Tu regardais Alexandre Texier, on se disait, le gars, il est même pas capable de percer l'alignement des Blues de Saint-Louis. Et ça va très bien à Montréal. Ouais, l'environnement compte pour un joueur de hockey, Richard.
Ouais, puis je sais pas si je comprends. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec Dano aussi en termes de les derniers matchs où. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit à Los Angeles qu'il était malade.
Qu'il était malade, oui. Tu avais raté les 4 derniers matchs à cause d'une grosse grippe.
Oh, écoute, la grippe est forte. D'après moi, l'hiver à Los Angeles, ça a frappé fort.
Ouais,
le changement de température puis la baisse de luminosité ont fait baisser le système immunitaire.
Philippe Dano a été croisé par un collègue et ami ici hier, puis il me disait qu'il n'avait pas l'air d'un gars particulièrement affaibli. Fait que je...
Non, c'est ça. Il avait l'air... plutôt énergétique lors de son entraînement à Brossard avec Samuel Montembeau.
Je sais pas si Kent Hughes a appelé Philippe Dano et lui a sorti la phrase suivante.
Are you awake?
Ouais, c'est probablement ça qui t'a dit.
Hey Richard! Non, mais j'allais finir là-dessus. On va-tu en pause? Faut aller en pause?
Ben, il va falloir y aller,
Tu peux terminer. De toute façon, okay, t'es le seul chroniqueur qui a pris l'habitude de prendre le contrôle de ses chroniques et faire ce qu'il veut.
Ben, non, mais j'allais juste finir parce que le bout de changement de décor, c'est important. T'as parlé d'Alexandre Tessier, c'est exactement ça. T'sais, des fois, ça arrive. À l'occasion que t'as un gars qui n'est pas dans une bonne situation, clairement, Dano et le coach à Los Angeles, ça ne fonctionnait pas. Alors moi, je m'attends à voir un joueur transformé ici à partir de quoi, 10h30 ce matin, le Canadien qui va être sur la glace.
Exact.
On va voir un joueur transformé, messieurs.
Et ce sera peut-être un Richard Labbé transformé au retour de la pause. Ce qui est transformé, c'est peut-être le deuxième trio. Est-ce qu'on a notre deuxième centre officiellement? La question se pose dans deux instants. Encore une fois avec Richard Labbé. Tu te poses la question ce matin, mon cher Richard. Est-ce que le deuxième trio a trouvé son deuxième centre?
Mm-hmm. Greg, d'ailleurs, si tu m'avais dit, mettons en septembre, si tu m'avais dit à la pause des fêtes, là, le deuxième buteur du Canadien va être Oliver Kapanen, je t'aurais probablement dit que tu as besoin d'aide.
Ça, c'est comme la personne qui m'a dit en début de saison que les Islanders allaient faire les séries.
Oh, ça, c'est quelqu'un qui... C'est un grand devin, ce qui t'a dit ça, Greg. Ça.
Force est d'admettre, effectivement.
Mais Oliver Kapanen, les amis, a 11 buts. Oui. Et s'il y a une affaire, s'il y a une affaire que j'avais pas prévu au mois de septembre, c'était bien ça. Je pense qu'on peut lui donner tout de suite le titre de surprise de l'année chez le Canadien de Montréal. C'est absolument exceptionnel ce qu'il est en train de faire, ce gars-là. Et ça fait en sorte que la question du deuxième trio, qui était tellement lourde au mois de septembre, on se demandait, bon, est-ce que Kirby Dach est capable de piloter ce trio-là? Si oui, avec qui? Puis c'était vraiment c'était plein de points d'interrogation. Voilà, parce qu'on se disait, bon, c'est bien le fun, on a un bon premier trio, mais qui va être capable d'appuyer ce premier trio-là? Puis on ne savait pas. Ben, présentement, ben, c'est ce qu'on voit, c'est Kapanen qui est à la tête de ça. C'est absolument renversant. Et ça fait en sorte qu'il y a des soirs où, par exemple, dimanche, ça va moins bien, peut-être, pour le trio de Nick Suzuki. Ben là, t'as les gars en arrière qui, eux, prennent le relais. Dimanche, ça a été un exemple parfait de ça. 2-5, ça, faut le mentionner, c'est très important de le spécifier. 2-5. Et Slafkovský, que j'ai toujours vu plus comme une espèce d'attaquant de puissance, tu sais, qui va aller mettre des rondelles au filet. Mais Slafkovský est en train de se développer, ou en tout cas, on est en train de lui découvrir des talents de fabricant de jeu. Mm-hmm. Je savais pas qu'il y avait ça dans son arsenal, mais les deux passes que Slafkovský a effectuées dimanche pour des buts, mon Dieu, ça a été absolument... ça a été sensationnel. Alors, il y a une chimie aussi qui s'installe avec ces trois gars-là. Alors, soudainement, avec Kirby Dach, il n'est pas là. Il n'est toujours pas là. Mais là, est-ce qu'on a répondu à notre question qui est le deuxième centre? Est-ce que tout ce temps-là, on voyait pas c'était qui le deuxième centre? Mais en tout cas, pour l'instant, Oliver Kapanen a levé la main. Et clairement, c'est lui qui fait le travail.
Est-ce que tu penses que c'est la recrue la plus sous-estimée en ce moment dans la Ligue nationale, Oliver Kapanen?
Oh, ça, c'est une bonne question. Écoute, dans la Ligue nationale, il y a peut-être un gars que j'ai oublié quelque part à Minnesota ou à Columbus. Là.
Ben, c'est sûr qu'il y a Jesper Wallstedt, là, en ce moment, il y a de plus en plus dans les conversations avec le Wild. Là. Mais le travail qu'Oliver Kapanen fait, honnêtement, au sein de ce deuxième trio-là avec Juraj Slafkovský, Ivan Demidov, c'est surprenant. Moi, si j'étais Martin Saint-Louis, je serais prudent à modifier ce trio-là si jamais j'ai besoin de faire de quoi, de créer une étincelle, honnêtement, parce que, justement, comme tu l'as dit, Richard, Juraj Slafkovský a un très bon talent de fabricant de jeu, mais un excellent lancer aussi. On l'a vu lors du premier match contre les Pingouins samedi, lorsqu'il a marqué. Il est capable de décocher rapidement. Être Martin Saint-Louis, faut être prudent à surveiller ce trio-là, là.
Parce que Slafkovský, quand tu le mets avec Suzuki et Caulfield, c'est plus lui qui a ce rôle-là. T'sais, ça va être plus Suzuki qui va mener la barque et qui va tenter de créer des choses. Et là, on demandait à Slafkovský d'être le gars qui allait foncer au filet, qui allait prendre des retours. Là, Slafkovský, tu le mets avec Kapanen et Demidov. Et là, soudainement, tu lui demandes de faire autre chose.
Exact.
Et moi, je suis surpris, honnêtement. Parce que Slafkovský, c'est un gros gars. Qui a vraiment le profil de ce qu'on appelle en anglais le power forward, le typique. Là. Il y a vraiment ce profil-là. Je ne lui savais pas cette vision du jeu qu'on voit présentement et qui fait en sorte que ce deuxième trio-là est très bon pour Martin Saint-Louis. Alors, ça va être effectivement...
Mais les gars, là, je vous écoute parler. Là. Kapanen, oui, 11 buts, deuxième buteur du Canadien. J'en conviens. Quand même, là, je regarde son total de points, là, j'ai fait une règle de 3. Là. Ça revient à 43 points pour la saison.
Ouais.
Pour un deuxième centre d'une équipe qui veut s'en aller en séries éliminatoires,
je suis d'accord.
C'est pas assez.
Non.
Alors, il est très bon, Oliver Kapanen. Et je le critique pas du tout. Mais est-ce qu'on a trouvé notre solution cette saison au deuxième centre? Là? T'sais, probablement à long terme, il va continuer de s'améliorer. Déjà là, ce qu'on voit cette année, c'est de beaucoup meilleur à précédemment. Mais pour moi, je vous le dis, selon les statistiques qu'on a, ça doit être un peu mieux que ça.
Ouais. Ben,
est-ce qu'on a trouvé, est-ce que ça empêche le Canadien de faire une transaction pour une solution de location? Il serait mieux comme troisième centre. Ouais. Après ça, tu mets Dano. Tu sais, il y a toutes ces questions-là à répondre pour moi dans les prochaines semaines.
Ben, tu sais, écoute, est-ce que c'est assez? Probablement pas, mais dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus que l'on pouvait espérer. C'est ça la différence. Tu sais, je pense qu'à partir du moment où Kirby Dach s'est blessé, en fait, déjà, quand Kirby Dach était en santé, on avait déjà nos doutes sur Kirby Dach à titre de deuxième centre. Ça, c'est sûr et certain. Hugo, t'en souviens, on a fait probablement ben oui. 8 émissions cet été sur ça.
Ben oui, exact.
Alors, moi, je pense que oui, OK, c'est pas assez. Bah, peut-être c'est pas assez, mais c'est, en même temps, c'est inespéré. Parce que là, on savait même pas ce que Dach allait pouvoir apporter. Mm-hmm. Dach se blesse. Après ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On ramène-tu New York deuxième centre? Ça marchera pas plus. New York se blesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va te chercher
une transaction. Exact.
Ben... Alors, dans le contexte, Greg, c'est pas assez, moi, je te dis. C'est inespéré, parce que dans le contexte, t'étais dans le gros trouble, t'allais avoir un méga trou à cette position-là, et soudainement, t'as ce gars-là, Kapanen, qui se lève.
La solution était à l'interne, effectivement, mais écoute, je veux pas trop qu'on parte en peur non plus.
Non,
je sais que t'as encore une recrue, tout ça, mais peut-être qu'on a encore besoin d'aide sur le top 6, justement, pour continuer d'améliorer cette équipe-là en attaque. Hey Richard, c'était bien le fun. On te souhaite un bon match à Boston, mon ami.
Oui, écoute, tu sais, le danger ici, messieurs, c'est que entre la première période et la deuxième, il y a un cart de dessert.
Bon, tu fasses attention, Richard.
Ça, c'est pas facile.
On est le 23 décembre. T'as le droit, Richard.
C'est bien.
Salut, Richard.